mon histoire francophone en Colombie-Britannique, sur les traces de ceux et celles qui ont permis à notre langue et à notre culture de survivre. Merci aux élèves de 6e année de Madame Maude, Maxime Simard et Richie.
Oui, bien sûr. Je trouve que c'est une bonne idée de la part de Mme Kenda de vous permettre de remettre votre travail dans les cours de français et d'histoire. On peut regarder ça ensemble. Tu es mordu d'histoire, n'est-ce pas, Edmé?
Oui, ma mère a toujours insisté sur le fait que quand on sait d'où on vient, quand on connaît nos origines, on est plus fier. On se tient plus droit, car d'autres sont venus avant nous pour nous ouvrir la voie. Alors, ce projet sur notre histoire francophone, ça m'allume.
Tu as déjà ton sujet?
Oui, c'est Modeste Demers, l'évêque. Je ne savais pas que le clergé avait joué un si grand rôle dans l'histoire de la Colombie-Britannique. Ça m'a surpris et épaté.
Et pourquoi lui, parmi tant d'autres?
C'est un grand aventurier, un explorateur, un polyglotte, un bâtisseur. Un homme extraordinaire.
Tu sembles déjà avoir recherché ton personnage.
Et j'ai déjà beaucoup écrit. Et c'est pour ça que j'ai besoin de votre aide. J'ai beaucoup de matériel et je ne sais pas trop comment diviser les connaissances entre la dramatique et la narration.
Ok, montre-moi ça.
Mes notes sont dans mon ordi. J'ai pensé que pour la narration, on pourrait commencer avec la situation politique au Québec quand il était enfant.
Ok. Dis toujours, on verra.
Après la conquête du Québec par les Anglais, le gouvernement prévoit, dans le but d'assimiler la population francophone, largement catholique, et sous la recommandation du Conseil de Québec de 1789, suggère l'enseignant religieux soit complètement séparé de l'école. On encourage la construction d'écoles protestantes. Les professeurs catholiques ayant œuvré sous le régime français sont partis. Les écoles francophones ferment les unes après les autres. L'enseignant est souvent fait par des bénévoles. En 1824, on ne trouve dans chaque ville que 5 ou 6 personnes à peine pouvant lire et compter.
Attends, t'es sûr de tes chiffres? Ça me semble un peu tiré par les cheveux. Seulement 5 ou 6 par village? Allons donc, quelles sont tes sources?
J'ai trouvé un vieux livre dans notre bibliothèque à la maison. Il a été écrit en 1987 par l'Association historique francophone de Victoria. Présence francophone à Victoria, CB 1843-1987.
écrit par l'association historique. Alors j'imagine qu'ils avaient une bonne bibliographie et que leur source était fiable. Continue, c'est très intéressant.
Dans le but d'empêcher des conversions vers le protestantisme, l'Église catholique dit à la population qu'il vaut mieux être illettré et aller au ciel que de savoir lire et aller en enfer. Au moment où est né Modeste de Mers, la vie des francophones est dépendante de l'Église. Il n'y a pas vraiment de séparation entre la vie économique, politique et sociale et la vie religieuse. L'Église a un fort ascendant sur les populations. Le climat social est très tendu. Le slogan des francophones était « Ma foi, ma langue, mes droits ». De Mers naît en 1809 à Saint-Nicolas, près de Québec. Les professeurs de l'époque sont soit des curés de village ou des ambulants. Les enfants reçoivent une instruction rudimentaire. Mais Modeste fait preuve d'une foi ardente, est intelligent et est recommandé par son curé. C'est ainsi qu'il est accepté au Petit Séminaire de Québec. À la fin de ses études en prêtrise, il est nommé vicaire à Trois-Pistoles. Animé par la vocation de missionnaire, il se joint à la brigade de la baie du Tson à la Chine. Première étape, la Rivière Rouge au Manitoba, où il espère évangéliser les peuples autochtones. Finalement, après avoir appris plusieurs langues autochtones, incluant le chinook, la langue de commerce, et s'est instruit sur les us et coutumes des peuples qui l'hébergeaient, il part avec le père Blanchette et un groupe de voyageurs de la HBC vers le comté d'Oregon pour rejoindre Fort Vancouver.
C'est incroyable la force et l'endurance de ces hommes-là. La flottille de 30 canots partit au printemps, en avril 1838. Les rivières étaient gorgées d'eau de la fonte des neiges. Ils ont parcouru 3200 kilomètres et fait 145 portages en 55 jours.
Pourquoi il est parti avec la compagnie de Baie d'Hudson?
La HBC soutenait le travail des prêtres. Plusieurs, sinon la grande majorité des voyageurs, étaient des francophones, des Canadiens. Ces hommes prenaient femme parmi les Premières Nations. Les responsables des forts de la HBC voulaient que les enfants nés de ces unions soient élevés dans la foi chrétienne et qu'ils apprenaient soit le français, soit l'anglais.
Je constate que tu as fait un travail de recherche très complet.
Ma mère dit souvent qu'en histoire, il faut voir la situation sociopolitique dans son ensemble, si on veut bien comprendre un événement.
Au berceau des quatre saisons, au berceau.
Après bien des pérégrinations, dans un naufrage au cours duquel 12 hommes périront, ils arriveront à Fort Vancouver en novembre 1836. Avant le traité de l'Oregon, signé en 1846, l'Angleterre revendiquait le terre qui est à l'ouest des Rocheuses, s'étendant depuis le territoire russe, aujourd'hui l'Alaska, jusqu'à la Nouvelle-Espagne, le Mexique actuel. Les Américains avaient les mêmes visées. Entre 1818 et 1846, les deux pays exploitaient le territoire. C'était une zone grise du traité de l'Oregon. Le traité de 1846 divisait ce territoire au 49e parallèle. Au sud, USA, au nord, le territoire britannique. Fort Vancouver était situé à l'embouchure de la rivière Columbia. En Oregon, le directeur général du fort était un francophone de Rivière-du-Loup au Québec, Jean-Baptiste Mégoulin, mieux connu sous le prénom de John, devenu médecin. Il fut engagé pour la Compagnie du Nord-Ouest. Il travailla dans le poste de traite du lac supérieur. Il se devint commerce et vit l'apprentissage de plusieurs langues autochtones. Il fut un des négociateurs durant la pourparlers pour la fusion des compagnies du Nord-Ouest et de la baie d'Hudson. Il fut nommé un poste de chef facteur à Fort Vancouver en 1825. Lorsque l'équipage en faisant partie de Mars et Blanchette arriva au Fort Vancouver, Mégoulin était absent. James Douglas, son assistant, accueillit le nouveau venu.
Bienvenue, mes amis, bienvenue. Vous devez être le père François Blanchette. Nous vous attendions beaucoup plus tôt dans la saison.
Le voyage nous a pris 4 mois. Que de mésaventures, monsieur Douglas, et que de malheurs en route. Laissez-moi vous présenter à mon compagnon dans la foi, Modeste de Merse, lui aussi missionnaire.
Content que vous soyez parmi nous. Il y a tant de travail à faire.
Monsieur Douglas, c'est un honneur de vous rencontrer. Et quelle joie pour moi que de pouvoir apporter la lumière à ces pauvres âmes.
Oui. Vous avez déjà fait de l'évangélisation?
Oui, au Manitoba, j'en reviens.
Amelia, venez, mamie. Ces prêtres nous arrivent de votre pays. Peut-être pouvant-ils vous donner des nouvelles de vôtre.
Messieurs les curés, bienvenue à Fort Vancouver. Mais mon épouse ne rend pas compte de votre état. Venez vous sustenter. Vous avez sans doute besoin d'un repas chaud. Un bateau vient juste d'arriver d'Angleterre avec des victuailles.
Je ne dis pas non. Notre ordinaire de fèves et de porc commençait à me peser. Est-ce que M. McLaughlin se joindra à nous?
Il est absent pour quelques semaines. Vous savez qu'il est en charge de 34 postes de traite, 24 portes et le patron de 600 employés. Nos territoires de commerce s'entendent jusqu'aux îles Sandwich. Il est souvent sollicité d'ailleurs.
Vous êtes son bras droit?
Son bras droit et son bras gauche. Il tient le fort durant son absence.
Pardon, madame, mais votre expression « tenir le fort », c'est un très joli jeu de mots.
Durant leur séjour sur cette terre d'Oregon, les deux prêtres voyageront beaucoup. Ils approfondiront leur connaissance du Chinook. Ils écriront d'ailleurs le premier dictionnaire Chinook français.
Yahal Uluflaf, Uich Mitlaik Chaskatal, Uich Sha'altishan, Uich Sha'alstuals, Uich Sha'altukitalaps, Uich Sha'als Uptsaz, Uich Sha'alstalu, Uich Sha'al Shwalpa, Uich Sha'al Iquanet, Samim.
De Mers traduira des hymnes et des prières du français en chinook. Le chinook était une langue de commerce. Inspirée du Lower Nuka, les premières nations s'en servaient dans leurs échanges commerciaux. Bien avant l'arrivée de la compagnie de la baie d'Aden et de ses employés, la traduction de ces hymnes et prière devant un instrument important dans la perte de la spiritualité qui avait été le code de conduite, le mode de vie des Premières Nations jusqu'au contact. Mais avec le temps et les échanges, la langue s'était transformée. De plus en plus de mots empruntés aux langues parlées par les colons se sont greffés et ont même remplacé le Chinook Wawa original. Une autre perte pour la culture des premiers peuples, la majorité de ces nouveaux mots venaient du français, ce qui se comprend bien puisque les emplois de la compagnie de la baie d'Aden étaient très majoritairement des francophones et qu'ils étaient ceux qui étaient en contact direct avec les peuples indigènes. En 1870, environ 100 000 personnes parlant le chinook. Des deux côtés de la frontière, entre le Canada et les États-Unis, des contrats sont écrits en chinook. On parle chinook dans les usines, sur les chantiers.
Il me semble que tu t'éloignes de ton sujet. Et bien que ce soit très intéressant.
Je n'étais pas certain, mais la connaissance du chinook a été une partie importante du succès des missions menées par les différentes congrégations religieuses, dont le but, il faut le dire, était de forcer leur religion sur les peuples qui les accueillent sur leurs terres ancestrales.
Oui, tu as sans doute raison, mais continue. Tu verras si tu ne peux pas le placer ailleurs dans ta présentation.
Finalement, Auguste de Mers visite l'île de Vancouver en 1847 et est nommé évêque des trois colonies, la Nouvelle-Calédonie, l'île de Vancouver et les îles de la princesse Charlotte qui ont maintenant retrouvé leur nom original, Haida Gwaii. Il part en France et revient en 1852 avec une presse, dont il veut se servir pour imprimer livres religieux et livres de classe. Commence alors véritablement le travail de mission. Il écrira : L'île de Vancouver, qui doit être le lieu de ma résidence, a 100 lieues de longueur et sa plus grande largeur n'en excède pas 40. La population se compose de 10 000 sauvages, tous infidèles, excepté quelques centaines d'enfants qui furent baptisés en 1843 par M. Bolduc, le seul missionnaire qui ait visité ce pays.
Les hommes sont de plus en plus difficiles à contrôler. Ils tournent le dos à Dieu. Ils vivent sans foi. La consommation d'eau de vie est courante. Les bagarres aussi. Et tous ces enfants nient de leur union à la mode du pays, avec les Indiens. Ils ne connaissaient pas la Bible et les bonnes mœurs. Il faut y remédier. Modeste, tu dois trouver un solution.
Mes prêtres font leur possible dans les missions, mais je manque d'hommes. Plusieurs sont appelés, mais peu sont élus. Tu sais que j'entretiens une correspondance soutenue avec des prêtres de toutes les congrégations, autant ici que dans les vieux pays. Les vocations des missionnaires sont rares.
La compagnie est prête à soutenir tes démarches, mais tu sais que nous appuyons aussi les protestants et les anglicains. Pour moi, cela ne fait pas de différence. Quelle sera ta prochaine étape?
Je ferai à nouveau le long voyage jusqu'à Montréal. Mon supérieur m'a parlé d'une nouvelle congrégation, la Congrégation des Sœurs de Sainte-Anne, dont la mission est d'éduquer les enfants dans les campagnes. Sa fondatrice, Sœur Marie-Anne, s'est dite plus qu'intéressée et croit que parmi ses rangs, plusieurs de ses compagnes se sentiront attirées par les missions de l'Ouest des Rocheuses.
Et quand partout?
Dès que possible. J'ai quelques autres congrégations à visiter. Je prie la Sainte Providence pour qu'elle mette sur mon chemin des âmes prêtes à vivre dans la destitution la plus totale, le temps que nous puissions les loger convenablement et construire une école digne de ce nom.
Où les logerais-tu? Nous devons acquérir de place dans le fort, dans la maison épiscopale.
Non, j'ai acheté, il y a quelque temps déjà, la maison de Léon Morel. C'est seulement à quelques minutes de marche de chez moi.
Morel? Mais il a quitté sa maison à la mort de sa femme. Il faudrait peut-être s'assurer qu'il tienne encore debout.
Oui, elle tient encore debout, quoiqu'elle ait besoin d'un bon ménage et de quelques réparations. Mais je n'ai pas le temps de m'occuper de cela maintenant. Je prépare mon voyage.
Alors, mon cher ami, je te souhaite bon voyage. Sois-tu protégé par la Providence? Tout ce que tu cherches et reviens-nous vite.
D'ailleurs, qui sont tous les Raffman?
D'ailleurs, qui sont tous les Raffman?
Dans les chantiers sont montés.
Bing sur la ring, bang sur la ring. Laissez passer les Raffman. Bing sur la ring, bing bang.
Dans les Bytown, ils sont passés.
Dans les Bytown, ils sont passés.
Des provisions, ils ont acheté.
Bing sur la ring, bang sur la ring. Laissez passer les Raffman. Bing sur la ring, bing bang.
Des binolars qui étaient canés.
Des binolars qui étaient canés.
Des belles petites bottes pour leurs grands pieds. Bing sur la ring, bang sur la ring.
Laissez passer les Raffman. Bing sur la ring, bing bang.
En canot d'écorce, ils sont montés.
En canot d'écorce, ils sont montés.
Et du plaisir, ils sont donnés.
Bing sur la ring, bang sur la ring. Laissez passer les Raffman. Bing sur la ring, bing bang.
Vers l'Outaouais sont dirigés.
Vers l'Outaouais sont dirigés.
En plein courant se sont lancés. Bing sur la ring, bang sur la ring. Laissez passer les Raffman.
Bing sur la ring, bing bang.
Dans les chantiers sont arrivés.
Dans les chantiers sont arrivés.
Des manches de hache en fabriqué.
Bing sur la ring, bang sur la ring. Laissez passer les Raffman. Bing sur la ring, bing bang.
Que l'Outaouais fut étonné.
Que l'Outaouais fut étonné.
Quand faisait le bruit, leur rage trompée.
Bing sur la ring, bang sur la ring. Laissez passer les Raffman. Bing sur la ring, bing bang.
Quand le chantier fut terminé.
Quand le chantier fut terminé.
Chacun chez eux sont retournés.
Bing sur la ring, bang sur la ring. Laissez passer les Raffman. Bing sur la ring, bing bang.
En plein courant se sont lancés.
En plein courant se sont lancés.
Avec l'argent qu'ils ont gagné.
Bing sur la ring, bang sur la ring. Laissez passer les Raffman. Bing sur la ring, bing bang.
Leurs femmes ou blondes ont embrassé.
Leurs femmes ou blondes ont embrassé.
Tous très contents de se retrouver. Bing sur la ring, bang sur la ring.
Laissez passer les Raffman. Bing sur la ring, bing bang.
Avec l'argent qu'ils ont gagné.
Avec l'argent qu'ils ont gagné.
Sont allés voir la mère Gauthier.
Bing sur la ring, bang sur la ring. Laissez passer les Raffman. Bing sur la ring, bing bang.
Sont allés voir la mère Gauthier.
Sont allés voir la mère Gauthier.
Et les grosses filles ont marié.
Bing sur la ring, bang sur la ring. Laissez passer les Raffman. Bing sur la ring, bing bang.
Au bout de 15 jours, il était cassé.
Au bout de 15 jours, il était cassé.
Il a bien fallu se faire une idée. Bing sur la ring, bang sur la ring.
Laissez passer les Rasman. Bing sur la ring, bing bang.
D'ailleurs, qui sont tous les Rasman?
D'ailleurs, qui sont tous les Rasman?
Dans les chantiers sont montés. Bing sur la ring, bang sur la ring.
Laissez passer les Rasman. Bing sur la ring, bing bang.
Les deux hommes étaient donc des amis?
Oui, leur amitié a duré 30 ans.
Et tu es sûr qu'ils se parlaient français?
Pas mal sûr. Modeste Demers parlait couramment 7 langues autochtones, en plus du chinook, du français et de l'anglais.
Et James Douglas?
Il était le fils d'un planteur du sucre en Guyane, et sa mère était créole, donc qui parlait sans doute français. On n'a que peu d'informations sur elle. Il avait 6 ans lorsque son père épouse une Écossaise. Il a fait ses études en Hollande. Il a épousé Amelia, qui ne parlait que le français et le cri au moment où ils se sont rencontrés. Douglas, par son travail dans l'effort, devait parler français avec les engagés, majoritairement francophones. Plus de 60% des employés du Fort Victoria en 1855 étaient francophones et tous les officiers, tous sans exception, parlaient français.
Tu peux donc affirmer, sans crainte de te tromper, que les deux hommes communiquaient en français.
Alors, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il y a une bonne alternance entre le côté dramatique et le côté narration?
Cela m'a l'air assez juste. Et je crois que tu peux garder la section sur le chinook. Cela s'inscrit bien dans la description du personnage. Tu as fait du bon travail.
Recherche, texte et montage, Marie-Hélène Bourret. Cette émission est une production de CILS-FM 107,9 au 4 ans, la seule radio communautaire francophone à l'ouest des Rocheuses. Et est rendu possible grâce à la participation de Patrimoine canadien.
Entre la rivière et le bois,
entre la rivière et le bois,
il y a une bergère.
Nous tenons à remercier tous les bénévoles de CILS-FM qui ont rendu possible l'enregistrement des dramatiques. Merci.
Qui gardait son troupeau du loup.
La belle s'est endormie, qui m'a maintenant.
La belle s'est endormie.